Amen, amen. Il est digne, il est digne, il est plus que digne. Et ce matin, mes amis, on n'est peut-être pas nombreux, il y a une célébration à Brignoles, comme vous le savez, et on remercie Dieu pour ça, parce que c'est ça aussi le royaume. Le royaume est appelé à s'affermir et à s'étendre. Et j'ai un message vraiment, je crois, sur mon cœur, de la part de Dieu, pour nous, Église, et on va le faire, Dieu voulant, sur plusieurs semaines. Et d'ailleurs, c'est devenu une série, on commence une nouvelle série qui s'appelle « Alerte ». C'est quelque chose que Dieu a réellement déposé sur mon cœur et que je m'étais qui est revenu très fort sur mon cœur. Et quand je l'ai partagé avec pasteur Mathieu et Romaric, on en a décidé d'en faire en fait une série. C'est quelque chose qui est vraiment brûlant sur mon cœur et je voudrais vous le partager ce matin. On verra peut-être, même sûr, qu'un aspect. Et sur les semaines qui vont suivre, il y aura d'autres choses qui vont aller dans la même lignée, j'en suis sûr. En tout cas, pour ce qui me concerne ce matin, il y aura trois parties. On va voir la première partie ce matin. Mais le texte que j'aimerais prendre, c'est dans Marc, chapitre 13, à partir du verset 32. Et il y a des textes dans la parole de Dieu, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui, dans la saison dans laquelle on vit, même si tous les textes sont pertinents évidemment pour nos vies, mais il y a des textes qui sont des textes réellement de saison. S'il y a une saison pour laquelle ce passage que je vais lire s'applique, c'est bien cette saison. Alors écoutez attentivement, ouvrez vos oreilles spirituelles. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est Jésus qui parle. Personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33, prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. On entend beaucoup sur la prière, et c'est essentiel, la prière est la respiration du chrétien. Donc si je ne prie pas, je meurs, spirituellement. La prière et la parole, c'est comme l'inspiration et l'expiration. Quel est le plus important ? Dites-moi, entre l'inspiration et l'expiration, ce qui est le plus important, ça va de pair, c'est ma respiration spirituelle. On parle beaucoup de la prière et on en parlera et on le rappellera parce que il faut prier, c'est une nécessité. Sinon, je meurs. Mais Jésus va dire deux choses avant. Prenez garde et veillez. La plupart du temps, pourquoi j'arrive pas à avoir une vie de prière intense? C'est parce que je n'ai pas appris à prendre garde et à veiller. Si j'apprends à veiller, ma prière sera naturelle et naturellement productive. Prenez garde et veillez. En d'autres termes, soyez alerte. D'où le titre de cette série et de mon message ce matin. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Verset 35, veillez donc. Car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Trois fois, c'est précisé dans ce passage. Moi, ce qui m'étonne avec Jésus, et on le voit dans plusieurs passages, dans Matthieu, dans les quatre évangiles, en fait, Jésus, à un moment donné, va parler de la fin des temps. Dans Matthieu 24, il y a des disciples qui vont venir le voir et ils vont lui poser cette question. Dis-nous, maître, quand viendra la fin? C'est quoi, à quoi on va reconnaître? C'est quoi les signes qui vont nous dire que tu vas revenir? Dis-nous. La première chose que Jésus dit, la première chose, prenez garde. Veillez que personne ne vous séduise et que votre cœur ne se trouble pas. Prenez garde. Et ensuite, il va donner les signes. Mais la première chose, Jésus ne répond même pas à la question. Quels sont les signes? Quand est-ce qu'on saura que tu reviendras? Veillez. Soyez alerte. Et il va le dire à maintes et maintes et maintes reprises. En fait, le mot veiller, être alerte, rester vigilant, c'est plus que présent dans la parole de Dieu. Notamment dans le Nouveau Testament. Ici, Jésus raconte une sorte d'histoire, mais c'est pas une histoire, c'est la réalité. L'homme qui est parti en voyage ici, c'est Jésus. Qui, il y a 2000 ans, est parti auprès du Père. Et il a laissé deux types de personnes. Ici, il est dit, il a laissé des serviteurs. Le mot, c'est doulos. Ce sont ses esclaves. Est-ce que vous savez qu'on est esclave de Christ? Totalement vendu à sa volonté. Voilà les deux types de personnes que Jésus laisse. Les doulos, ceux qui sont censés servir sa maison, parce que le contexte ici de tout ce que Jésus dit, c'est le contexte d'une maison. Bien sûr, nous sommes l'Église de Christ universelle sur la surface de la terre de tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ. Mais il parle d'une maison. Et ici, nous sommes une maison locale. Et nous sommes une partie du corps de Christ. et avec toutes les autres églises locales, nous formons le corps de Christ. Au passage, ne laissez jamais, jamais, jamais personne dénigrer à vos yeux l'importance de l'église locale. C'est aussi un des signes majeurs que nous sommes dans les derniers temps. Il y a des courants de pensée en ce moment qui tendent à dire que l'église locale n'est pas si importante que ça. L'église locale est le plan parfait de Dieu. Soyez vigilants, veillez à ce que vous entendez. À la fin des temps, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire ? En tout cas, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. N'abandonnez pas vos assemblées. D'autant plus que le jour s'approche. Donc, un des signes que je suis alerte, c'est que surtout pas je ne manque les réunions d'église. Surtout pas, pour aucun prétexte. C'est un signe que je suis aligné avec la saison. Un signe de maturité spirituelle. Donc, ces serviteurs, premier type de personne. Deuxième type de personne que Jésus laisse, il parle du portier. Le portier de la maison. Le portier, c'est celui ou à celle à qui revient la responsabilité de garder la maison, d'être attentif au retour du maître pour sonner l'alerte. Le portier est censé sonner l'alerte. Alors ici, ça représente bien sûr le responsable d'une église locale, mais ça représente aussi le responsable d'une famille, le papa, ou les parents pour leurs enfants, ou ça représente toi et moi, parce que nous sommes tous les portiers, les gardiens de notre propre cœur. Et le portier est celui qui donne l'accès ou qui refuse l'accès au maître. Donc ce qui veut dire que si je regarde à ma propre vie ou si je suis papa, maman, pour mes enfants, je suis celui ou responsable d'une église, je suis celui qui autorise ou qui refuse l'accès à Jésus dans ma famille et de façon ultime lorsqu'il reviendra. Alors Jésus dit « veillez ». Verset 33. Premièrement, il dit « prenez garde, veillez et priez ». Prenez garde, j'aimerais vous prendre un peu dans la signification de ces mots. Parce que Jésus, bien sûr, parfaitement rempli du Saint-Esprit, comme les autres auteurs dans la parole de Dieu, ont écrit ces choses inspirées par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu a lui-même choisi les mots. Prenez garde, c'est le mot « blépété ». Ça signifie voir, prêter une grande attention, prendre attentivement note de quelque chose pour être capable de percevoir les dangers ou les besoins futurs. Et donc, ça a une implication de se préparer pour répondre de manière appropriée. Ici, en fait, quand Jésus dit « prenez garde », c'est un commandement, c'est un appel à la vigilance. C'est une instruction, littéralement, ça veut dire « garde les yeux ouverts, ne t'endors pas ». Et il va dire ensuite « veillez ». Là, c'est un autre mot, c'est « agrippneo ». Et ça a à peu près la même signification, mais ça insiste davantage. C'est être resté en alerte, être vigilant. Et ce mot-là décrit littéralement quelqu'un qui reste éveillé et qui a réussi à ne pas s'endormir et qui passe des nuits blanches. C'est très aussi contextuel, les amis, parce qu'à l'époque, en tout cas dans la culture juive, le futur mari retournait chez son père pour préparer une place pour sa future. Et quand le père, écoutez ça, c'est très important, quand le père estimait que la place était prête et que le fils était prêt, alors il lui disait, va maintenant chercher ta mariée. Et donc il allait la chercher. Et personne ne savait quand cet époux allait chercher. Donc, qu'est-ce que faisait la mariée et toutes les dames d'honneur et avec elle ? Elle restait éveillée. Parce qu'il pouvait venir à n'importe quel moment. Et il venait avec des trompettes, l'époux. Et quand elles entendaient la trompette, Jésus va parler juste après dans Matthieu 25 des vierges folles et des vierges sages. C'est exactement ça, la vierge qui attend l'époux. Elle devait rester éveillée pour ne pas rater l'arrivée de l'époux. Et elle devait rester habillée. Elle dormait habillée. Et ça pouvait prendre plus d'un an. Plus d'un an. Dans la culture juive. Elle devait rester éveillée constamment. Donc en fait, quand Jésus dit ici « veillez », c'est celui qui a réussi à ne pas s'endormir. Laissez-moi vous dire, dans la fin des temps dans lesquels nous vivons, il y a une torpeur, un sommeil spirituel qui s'abat. Jésus en a parlé, il y a une apathie qui s'abat. Jésus va dire, reste éveillé. Reste éveillé, parce que beaucoup vont s'endormir. Et donc il va dire ici, veille, reste alerte. C'est un appel à rester encore une fois vigilant face à un danger qui est menaçant. Si Jésus nous dit de veiller, c'est parce qu'il y a un danger. Et le danger, c'est d'être premièrement pris au dépourvu, comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais le danger dans le contexte, si on regarde Marc ici, chapitre 13, que je viens en train de vous lire, tout le contexte, juste avant, Jésus parle du danger d'être séduit par des faux enseignements dans la fin des temps, par des fausses doctrines, par des faux miracles, par le mensonge. Laurence en a parlé dans le temps de prière. Le mensonge va frapper à ta porte sous toutes ses formes. Et il faut prendre garde à cela parce que le danger, comme je vous le dis, c'est aussi le sommeil spirituel. C'est un abandonnement ou un éloignement du pur message de l'Évangile, de ce que Jésus a prêché. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y a toutes sortes d'évangiles qui sont prêchés. Et on se fait son propre évangile. Et on s'éloigne du message pur de ce que Jésus lui-même a enseigné et a dit. Et ça, c'est une apostasie. Ça, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi ? Parce que Paul va le dire aussi, à la fin des temps, beaucoup vont se donner des foules d'enseignants et des foules de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Pas ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils veulent entendre. Et ils vont se donner eux-mêmes des foules de docteurs. Et aujourd'hui, c'est monnaie courante. On va chercher ici, chercher un peu là, écouter ci, écouter ça. Et quand quelque chose un peu nous dérange, ah, ça me convient pas, ça me dérange trop, je préfère ça, ça flatte ma chair. On se le dit pas, mais la plupart du temps, en tout cas dans les temps que nous vivons, c'est ce que nous faisons. Jésus dit, veille à un danger. Et au verset 35, il va dire ceci encore une fois, veillez donc. Et c'est encore un autre mot, grégoréo ici, ça veut dire restez éveillé. Continuez à veiller, donc il ne suffit pas simplement de veiller une fois, il faut continuer de veiller, rester réveillé. C'est accorder une attention stricte, être prudent, être actif, prendre garde à quelque chose de peur que par indolence, ça veut dire inactivité ou paresse, quelque calamité destructrice s'abatte soudainement sur moi. Donc c'est toujours lié face à un danger. Jésus dit « Prépare-toi, ça arrive ». Si tu ne veux pas être surpris par ce qui arrive, veille. Apocalypse 16, 15, dans la même idée, Jésus dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, c'est le mot que je viens de vous dire, grégoréo, et qui garde ses vêtements. » Vous comprenez un peu plus l'idée de garder ses vêtements ?« Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Alors oui, il y a cette dimension que je viens de vous dire, mais quand on lit ce verset, on pourrait se dire « Mais pourquoi Jésus nous dit de garder nos vêtements et de ne pas marcher nu ? » Qu'est-ce que ça veut dire en rapport avec son retour et le fait de veiller ? Mais il y a un contexte aussi à cela. Dans le temple, à l'époque, les préparatifs du service du matin, vous savez qu'il y avait des offrandes, des sacrifices à offrir le matin, le soir, et les préparatifs du matin exigeaient que tous soient réveillés de bonne heure. Et le grand prêtre pouvait arriver à n'importe quel moment, très tôt le matin, pour offrir le sacrifice. Et donc, il fallait que tout soit prêt. Donc, ça nous parle d'être préparé. Mais aussi, pendant la nuit, il y avait ce qu'on appelait le capitaine du temple. Et le capitaine du temple passait et faisait sa ronde. Et à chaque fois qu'un soldat ou un lévite ou quelqu'un qui était appointé au temple, il devait servir le temple, rencontrait le capitaine du temple, il devait se lever, le saluer d'une certaine manière, et bien sûr être trouvé éveillé. Et tout homme, tout serviteur du temple qui était trouvé endormi, lorsque le capitaine du temple passait, où ses vêtements étaient brûlés, et donc il était nu. Et il marchait honteux. Et Jésus dit ici, veille, garde tes vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Tout garde qui était trouvé endormi à son poste ont brûlé ses vêtements. Et ça, les amis, c'est important parce que Jésus va aussi le dire. Heureux l'homme, dans le même contexte, une parabole qu'il donne, qu'il va revenir, un homme qui est parti pour un long voyage, qui va revenir. Heureux le serviteur qui est trouvé occupé à son poste quand le maître reviendra. Donc, quand je parlais de doulos, ce sont tout simplement les disciples de Christ qui sont vendus à la volonté de Christ et qui s'occupent des affaires de sa maison. Parce que le contexte, c'est la maison. C'est pour cela, ne négligez jamais, ne méprisez jamais le service dans sa maison. Parce que Dieu veut te trouver lorsqu'il reviendra, occupé à ce qu'il t'a demandé à faire. Veiller, c'est justement, reste focalisé. Ne sois pas distrait, reste focalisé à ce que Dieu t'a demandé. Dans Luc 17, verset 3, je pourrais prendre littéralement des dizaines, voire des centaines de versets. Jésus va dire aux disciples, il est en train de parler de l'offense, il dit que c'est impossible que l'offense n'arrive pas. Nous serons tous confrontés à l'offense, une ou deux ou plusieurs fois dans notre vie, c'est sûr. Mais qu'est-ce que va dire Jésus ? Prenez garde, veillez sur vous-même. Donc, quelle que soit la situation, Jésus va répéter cela. Prenez garde à vous-même. En fait, Jésus est en train de dire, c'est une question de priorité. Prends garde d'abord à ton propre cœur. Parce que ce qui se passe dans mon cœur, écoutez bien ceci, ce qui se passe ici, dans mon cœur, va me qualifier ou va me disqualifier pour avancer avec Dieu et pour prendre soin des personnes que Dieu me confie. C'est ça qui me qualifie ou me disqualifie. Au-delà du fait, bien sûr, que Dieu m'a couvert de son sang. Mais après, ce que je fais avec ma position peut me qualifier ou me disqualifier. Parce que c'est une réalité, les amis. Je peux être disqualifié dans la course que Dieu m'a assignée. C'est une possibilité. Sinon, Jésus n'aurait jamais dit autant, veille, prends garde, si tout était déjà gagné d'avance. Non, je peux être disqualifié. Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, 27, il va dire ceci. Je traite durement mon corps. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, en d'autres termes, j'ai bien commencé. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Je me trouve moi-même disqualifié. Paul, qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, Paul, qui a une révélation extraordinaire de Jésus, de l'Église même, qui a révélé des mystères, dit « Moi aussi, je peux être disqualifié. » Et donc, ça concerne mon âme et ça concerne aussi mon corps. Disqualifié, c'est le mot « adokimos ». Ça veut dire être désapprouvé ou être écarté. Exactement comme une course en athlétisme. Vous avez plusieurs coureurs sur chaque couloir. Si quelqu'un brise une règle ou marche sur le couloir d'un autre, ou ne donne pas le relais dans le temps et l'espace qui lui est imparti, il est disqualifié. Ça veut dire quoi ? Un juge arrive, il est écarté de la course, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le mot ici, dokimos, c'est adokimos, mais dokimos, ça parle toujours dans la parole de Dieu d'un caractère que Dieu approuve. Donc adokimos, c'est un caractère que Dieu n'approuve pas, qui est désapprouvé. Donc tout se passe dans mon caractère, dans mon cœur, dans ce à quoi je pense, ce que je dis, ce qui se passe à l'intérieur. Apocalypse 3:11, Jésus encore, à l'église, cette fois-ci de Philadelphie, qui nous parle aussi des temps dans lesquels nous vivons. Jésus va s'adresser à l'église de la fin des temps et il donne des messages. Donc ça nous concerne directement, à l'église de Philadelphie. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Pourquoi il faut tenir ferme ? Ici, l'image, l'expression tenir ferme, c'est avoir quelque chose et tellement de précieux que tu ne veux pas le laisser partir, que tu vas t'asseoir dessus. Et que tu laisses personne te le prendre. Ou alors, l'image, c'est un bulldog qui a un os dans sa mâchoire. Je ne sais pas si vous avez essayé de retirer, n'essayez pas, mais si vous avez essayé de retirer un os dans la mâchoire d'un bulldog, non, il le tient ferme. C'est exactement ce que ça veut dire. Tiens ferme ce que tu as. La question, c'est sais-tu ce que tu as ? Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, il est possible que quelqu'un prenne ma couronne, me la vole. 2 Jean 8, prenez garde, le même mot, blé pété, veille, sois alerte, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Jésus est en train de nous dire ici, il est possible, malheureusement, mais il est possible, si je ne veille pas, que je perde la récompense qui est censée m'être donnée, la récompense qui est affilié ou associé à ce que Dieu m'a demandé de faire. Et même à ce que j'ai fait en partie. Je peux avoir une récompense partielle ou je peux carrément la perdre. Ce qui veut dire que j'ai un travail, tu as un travail et tu as un but que Dieu t'a assigné pour ta vie sur cette terre. Et il y a des couronnes, il y a des récompenses qui sont associées à chaque chose que Dieu t'a demandé de faire. Mais si je ne fais pas ce qu'il m'a demandé de faire ou si je le fais, si j'essaie de courir ma course, mais sans respecter les règles de cette course, ben je peux être écarté. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, lui, va avancer. Ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit, ça va se passer. Que je le veuille ou pas, que j'y participe ou pas, ça va se passer. Mais ça peut être avec moi ou sans moi. Et ce qui se passe ici peut me disqualifier si je n'ai pas appris à veiller. C'est-à-dire que Jésus lui-même devra m'écarter. Il devra me remplacer. Alors son royaume avancera, comme je vous le dis, mais je perdrai ma récompense. Qu'est-ce que Jésus dit dans Marc 13, 37, dans le verset qu'on vient de lire, tout le passage? Quelle est la conclusion de Jésus? Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. On aurait pu penser, ok, le contexte, c'est, il prend soin de la maison, donc c'est les serviteurs de Dieu, c'est doulos à qui Dieu appelle, et il donne un appel spécial pour prendre soin de son église, il parle du portier, donc ce sont les responsables. Non, non, Jésus prend bien soin de dire à la fin, ce que je le dis à tous. Donc, ça nous concerne tous. Ça me concerne et ça te concerne. C'est pour tout le monde. Je dois finir la course fort. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, c'est une nécessité. Je dois finir fort, je dois prendre garde, rester alerte, faire bien attention. Donc vous allez comprendre tout le sens de cette série, alerte. Sois alerte. S'il y a un moment où il faut être vigilant et alerte, c'est bien maintenant, les amis. Parce que l'ennemi fait tout pour libérer une espèce de sommeil spirituel, de t'endormir. Les dix vierges sont endormies. Ça m'étonne toujours la parole de Dieu et je n'ai pas encore réussi, avec l'aide du Saint-Esprit, à creuser la profondeur de ce passage. Les dix vierges se sont endormies. Même celles qui sont entrées dans le ciel. Sauf qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors j'aimerais voir au travers, notamment pour ma part dans cette série, au travers de plusieurs parties qu'on fera ensemble, six domaines dans lesquels je dois veiller, ou sur lesquels je dois veiller, sur lesquels je dois rester alerte. Et ce que j'aimerais faire, c'est dans le mot alerte, il y a six lettres. Et j'aimerais prendre chacune de ces lettres, parce que c'est un moyen peut-être mnémotechnique pour qu'on se rappelle aussi, pour adresser six choses, six domaines sur lesquels je dois absolument veiller dans cette saison. Il y en a d'autres, et bien sûr, on laissera le Saint-Esprit vous révéler, mais au moins ces six choses, je crois, sont cruciales et importantes. Alors j'aimerais prendre la première lettre ce matin. Alerte commence par A, et A pour attitude. Veille sur ton attitude, et vous allez voir pourquoi. Premièrement, ce que j'aimerais vous dire, c'est ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu ne vas pas passer par des temps difficiles, par des souffrances, par des persécutions, mais au contraire. Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Mais moi, j'ai vraiment à cœur, et je sens ce mandat de la part du Saint-Esprit, je suis là, pas pour vous brosser dans le sens du poil, bien que je vous aime énormément, mais je suis là pour vous prêcher la vérité de la parole, que ça me plaise ou pas. Je dirais, c'est au contraire, c'est parce que tu es chrétien, et c'est parce que tu as été oint et scellé du sceau de Dieu. Tu es vu dans le monde spirituel. Tu passes pas inaperçu. C'est parce que tu es chrétien que tu feras face aux persécutions, que tu feras face aux souffrances, que tu feras face aux difficultés de la vie. Il y a une guerre spirituelle. Depuis le jour où tu as dit oui à Christ, d'ailleurs même avant que tu dises oui à Christ, il y a une guerre spirituelle. L'ennemi est déjà en train de combattre pour ton âme, avant que tu dises oui à Christ. Il y a constamment une guerre entre les démons et les anges au sujet des âmes. Constamment. Il y a une guerre spirituelle, il y a un ennemi, il y a un adversaire, il y a un dévoreur. Pasteur Mathieu en a parlé. Il y a celui qui dévore. Et cet ennemi, je vous l'ai dit, vous fera tout pour, premièrement, son plan A, c'est quoi? Te voiler ton intelligence pour t'empêcher de voir la splendeur de qui est Christ. Donc il le fait sur les gens du monde et il l'a fait pour nous jusqu'à un certain temps. Jusqu'à ce que, par la prédication de la parole, le voile soit ôté. Par la puissance du Saint-Esprit qui convainc. Et quand le voile a été ôté, j'accepte Christ, il passe tout de suite au plan B, c'est te pourrir la vie. Il veut te saper la foi que tu as en Dieu. Donc il va essayer de détruire ta foi. Dieu éprouve notre foi, Satan la détruit. Il y a les tests de Dieu et il y a les tests de l'ennemi. Les tests de Dieu, c'est pour te faire grandir, c'est pour consolider, c'est pour te rendre encore plus mature. Les tests de l'ennemi, c'est pour te détruire. L'ennemi est en rage contre toi et moi. Il est en rage contre ton couple, il est en rage contre tes relations, il est en rage contre ta famille, il est en rage contre tes finances, il est en rage contre toi. Et c'est même pas contre toi, c'est contre le Jésus en toi. Donc si j'ai Jésus, j'aurai un ennemi en rage en face de moi. Et donc, la foi, encore une fois, qui se base sur la vérité de la parole et sur ma réponse, sur mon obéissance, on en a parlé il y a 15 jours, va rendre les choses possibles, pas faciles. Ça rend les choses possibles au milieu de la difficulté. Parce que quand les temps difficiles arrivent, c'est là où Jésus nous dit, fais bien attention, veille, sois alerte, prends garde à ton attitude. Pourquoi ? Parce que la vie est une question d'attitude. Je vous garantis, la vie est une question d'attitude. Tu dois conserver la bonne attitude de cœur si tu veux continuellement avancer avec Dieu. On a parlé depuis, même l'année dernière, cette série En Mouvement. Si je veux avancer avec Dieu, si je veux m'aligner avec Dieu, garder ma main dans sa main, je dois veiller sur mon attitude. Écoutez bien ceci, la puissance de la vie chrétienne, la puissance du Saint-Esprit qui m'est donnée, n'est pas pour rendre ma vie confortable ou facile. Ça, il faut qu'on le comprenne, les amis. La puissance de la vie chrétienne, elle ne réside pas dedans. Je ne suis pas devenu chrétien pour que les tempêtes cessent. Ça, c'est peut-être un évangile qui est prêché aujourd'hui. C'est pas l'évangile de Jésus. Je ne deviens pas chrétien pour que les tempêtes cessent. Je deviens chrétien pour que lorsque les tempêtes frappent, ma vie est sur le roc et je tiens. Toute la différence. On l'enseigne aux enfants. La maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable. Et Jésus dit, lorsque ou quand les tempêtes viennent, ce n'est pas une option, hein, elles vont venir. Si vous voulez une prophétie qui va se réaliser, c'est celle-ci, 100%. Je peux vous le dire, ce que Jésus l'a dit. Parce que tant que nous serons dans ce monde, il y aura des tempêtes. Tant que nous serons dans ce monde, et encore plus si tu es chrétien. Par contre, la différence majeure, c'est que je suis bâti sur le roc. Et que dans n'importe quelle tempête, je peux la traverser. Donc la puissance qui m'est donnée, la puissance de la vie chrétienne, c'est que je traverse avec Christ. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui demeurent même dans la tempête. Il y a des choses qui demeurent toujours. Sa bonté, son amour, sa justice, ce sont des choses qui demeurent. Et je vais en parler dans un instant. Proverbe 4, 23, je vous dis, la vie est une question d'attitude. Voici ce que le Saint-Esprit va dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors on connaît hein, parfaitement ce verset. Garde ton cœur. Mais car de lui viennent les sources de la vie. La vie est une question de ce qui se passe dans mon cœur. Le mot ici garder, c'est le mot natsar en hébreu. Et c'est très profond. Littéralement, ça veut dire garder en haute sécurité. Maintenir en sécurité contre les blessures, les dommages ou le danger. Encore une fois, garde ton cœur, veille sur ton cœur. Pourquoi ? Il y a des dangers. Il faut que je sois prêt aux dangers qui vont frapper mon cœur. Et cette image-là, le mot natsar, c'est l'image d'un coffre-fort littéralement dans lequel il y a ton cœur. Et ce coffre-fort se situe dans une pièce qui est extrêmement sécurisée, avec des alarmes partout, ultra sécurisées. Et tout autour de cette pièce, il y a des gardes ultra entraînés et équipés pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Voilà comment il faut que je garde mon cœur. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un est offensé, que lorsque quelqu'un est blessé, c'est pas qu'il est mauvais ou mauvaise, c'est simplement qu'il a négligé la protection de son cœur. Il a laissé entrer des choses. Être blessé ne fait pas quelqu'un de moi de mauvais. Par contre, ça signifie que j'ai négligé la protection de mon cœur. Dieu s'occupe de mon cœur. Ok ? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Personne. Même moi-même, je ne peux même pas connaître et discerner ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. J'ai besoin de Dieu. Dieu connaît mon cœur. Il s'occupe de mon cœur. Mais moi, ma responsabilité, c'est de le protéger. Vous savez, Dieu, avec son peuple Israël, il a dit « Je suis ton protecteur. Je suis ta bannière. Je suis Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Je suis. » Et pourtant, Dieu a demandé à son peuple Israël de construire des murailles. Mais si Dieu est le protecteur, pourquoi construire des murailles ? quand il était le temps de Esdras et Néhémie, ils ont commencé à reconstruire le temple. Ensuite, ils ont reconstruit la ville. Et ensuite, sous Néhémie, ils ont reconstruit les murailles. Ça ne sert à rien de construire des murailles s'il n'y a rien à protéger. La première chose qui doit être rebâtie dans ma vie, c'est le temple, la présence de Dieu. La présence de Dieu, je prie que le Saint-Esprit nous donne une réelle révélation de ce que nous portons. Quand j'aurai la révélation de ce que je porte, de ce qui est en moi, il me sera évident de construire des choses, une muraille pour la protéger. Jésus est mon protecteur, Dieu est mon protecteur, mais je dois encore une fois collaborer avec lui. Je crois qu'il y a une chose que vous retiendrez, je l'espère en tout cas, je l'espère, de mon ministère et de ce que Dieu m'a donné, c'est la vie chrétienne est une vie de collaboration. Je crois qu'à chaque message que je prêche, il y a une notion de ça. Parce que c'est le message que je dois transmettre à l'Église. On est dans une saison de, où, comme l'Évangile n'est pas prêché, le message du pur Évangile n'est pas prêché, alors il y a toutes sortes d'idées, de perceptions sur ce qu'est la vie chrétienne. Et du coup, on a l'impression que tout est accompli. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Et que tout est fait d'avance. J'ai plus besoin de combattre, j'ai plus besoin de protéger. Tout est fait, j'ai mon ticket pour le ciel. Alléluia. Le ticket pour le ciel, c'est la première marche. Et c'est ça qui garantit tout ce que je vais pouvoir faire après. Mais c'est la première marche de ce que Dieu a pour moi. Donc protège ton cœur. Hébreux 12, 15. Parce que le temps passe vite. Veillez. Ah, c'est un autre mot. Episcopos. Veillez. À ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et il parle du cœur. Qu'aucune racine d'amertume. Ici, le mot épiscopos, ça a donné le mot évêque, le mot surveillant. Mais à l'époque, même dans le monde, j'ai envie de dire séculier de l'époque, ce mot désignait un contremaître. Et un contremaître, comme vous pouvez l'imaginer, imaginez un chantier, le contremaître est celui qui est le responsable du chantier. Tout ce qui se passe à l'intérieur est sous sa responsabilité. Et tous les ouvriers qui travaillent dans ce chantier sont redevables à ce contremaître. Et lui, il doit rendre des comptes à son patron de tout ce qui se passe dans le chantier. Comme un évêque est responsable d'une église, de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'église, de tout ce qui rentre, de tout ce qui sort. Et il doit donner compte, rendre compte à son maître. De l'état, de l'âme, etc., de ce qui se passe à l'intérieur de cette église. Episcopos, veille. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ? Tu es le contremaître, tu es l'évêque, tu es le gardien de ton propre cœur. Personne ne peut l'être à ta place. C'est-à-dire que tu es responsable de ce qui y rentre et tu es responsable de ce qui y sort. Et tu devras, comme moi, rendre compte à Dieu de ce que tu as laissé entrer, de ce qui en est sorti. Parce que tu es le berger, tu es le superintendant, le contremaître de ton cœur. Donc tu es responsable de l'état de ton propre cœur. Et ici, un cœur offensé, je parlais de l'offense tout à l'heure, une racine d'amertume amère. Et un cœur ne devient pas amer du jour au lendemain. Mais si j'ai laissé des choses, je n'allais pas protéger. Un cœur amer, ici, il est dit, se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste profondément. Comment est-ce possible de se priver de la grâce imméritée de Dieu ? La grâce de Dieu, et c'est ce qui me fait aujourd'hui. Je suis même sauvé par grâce. La grâce, sans la grâce de Dieu, je n'ai absolument rien à accomplir. Du salut jusqu'à toute la vie, la marche chrétienne, il n'y a rien qui peut se faire sans la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, il a déversé. Il n'y a aucune retenue pour la grâce de Dieu. Nous sommes en tant qu'Église, dans la dispensation de la grâce. Jusqu'à ce que Jésus revienne, la grâce va cesser. Quand Jésus revient, il n'y a plus de grâce. Nous sommes dans la dispensation de sa grâce. Pourtant, dans la dispensation de la grâce, il est possible que je m'en prive. Que je dise à Jésus, j'en ai pas besoin. Je préfère vivre sans ta grâce, c'est-à-dire la galère. Littéralement. On fait le choix, on peut se priver de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ou que c'est dit en fait se priver ou la rendre vaine. La grâce de Dieu est puissante, elle est extraordinaire, il n'y a aucune limite. Pourtant, j'ai la puissance, on a de la puissance les amis, je peux vous dire, on a la puissance de la rendre inefficace. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, je peux la rendre inutile. Juste, racine d'amertume, je n'ai pas protégé mon cœur. Et pire, non seulement je rends la grâce de Dieu inefficace, mais en plus je souille les autres autour de moi. J'infecte les autres. Parce que l'offense est contagieuse. L'offense souille. La blessure souille. Vous connaissez, avant de... Parce que Dieu m'a mis à cœur vraiment une cible par rapport à l'attitude ce matin, on pourra en parler de beaucoup, mais il m'a donné une cible. Lorsque fut venu le temps d'aller espionner le pays promis, Josué a envoyé des espions. Vous connaissez l'histoire. Il a dit qu'ils ont donné un rapport désastreux. Il y a seulement deux, Josué et Caleb, qui ont donné un autre rapport. Et il est dit ceci, que Caleb avait un esprit différent. Ils faisaient tous partie du peuple de Dieu. Ils ont tous vécu les miracles. Ils sont tous passés par la mer Rouge. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont eu la manne, ils ont eu les cailles, ils ont eu la même mission, aller explorer le pays promis. La seule différence, c'est faite dans l'attitude. Parce que le mot esprit ici veut dire les dispositions de cœur, une attitude différente. Et seuls Caleb et Josué sont entrés. Tous les autres ne sont pas entrés. Pourquoi ? Parce que le rapport désastreux des 10 a infecté tout le peuple. Il suffit de 10 qui ne protègent pas leur cœur pour infecter tout un peuple. Mais 2 ont choisi d'avoir un esprit différent, une disposition de cœur différente. Ils n'ont pas eu la même attitude. Philippiens 2:5, le meilleur exemple c'est Jésus. Vous devez, je le traduis d'une version anglaise, vous devez avoir la même attitude que celle de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-nous. De quoi Paul parle-t-il ici ? De quelle attitude il parle ? Si on lit Philippiens 2, tout le contexte, il est en train de parler de Jésus qui était dans le ciel et qui n'a pas hésité à se dépouiller pour venir comme un serviteur, pour servir en toute humilité, pour mourir sur la croix. Et quand et il dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, il parle de d'abord se préoccuper des intérêts des autres. Donc tout le contexte de Philippiens 2, c'est ça. Donc de quelle attitude il parle ? Lorsque Jésus était sur la terre, qu'on l'a insulté, qu'on est venu contre lui, qu'on l'a trahi, Jésus n'a jamais essayé de prendre les choses en main. Jésus n'a jamais essayé de prendre le contrôle. Il était soumis à la volonté du Père. Et c'est cela, cette attitude qui dit en fait, la vengeance est à toi. Elle n'est pas à moi. La vengeance est à toi. Donc qu'est-ce que Jésus a fait ? Eh bien, il s'est réfugié dans l'amour de son Père, dans la bonté de son Père. Il s'est réfugié dans la volonté de son Père, dans l'intimité avec son Père. Et il a laissé son Père être juge. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est dit dans ce même chapitre que Jésus a été élevé et il s'est assis à la droite du Père. Écoutez bien ceci. Mon attitude déterminera toujours mon altitude. Mon attitude de cœur va déterminer mon altitude spirituelle. Et vous savez quoi ? Plus je monte et plus je vois clair. Plus je monte et plus je vois large. Donc ça va déterminer aussi ma perception spirituelle. J'en ai parlé il y a 15 jours. Mais c'est mon attitude. Jésus, ayez les mêmes sentiments, la même attitude que Jésus avait. Et juste la conclusion, il a été élevé à la droite du Père. Il a reçu toute autorité. Mon attitude va déterminer mon altitude. Vous savez, j'étais béni de voir en fait que, je ne sais pas si vous le savez, mais même en aéronautique, il y a plusieurs instruments de bord, de vol, qui sont là pour nous aider, pour aider en tout cas le pilote à garder le contrôle de l'avion. Il y a ce qu'on appelle l'altimètre, qui mesure l'altitude, l'anémomètre, la vitesse du vent, la puissance du vent, etc. Il y a ce qu'on appelle, je l'ai noté ici, l'indicateur de direction magnétique, c'est une sorte de boussole, pour savoir où on est. Et il y a un indicateur qui s'appelle, ça va peut-être vous étonner, l'indicateur d'attitude. Présent dans le cockpit d'un avion, pardon, qui est là comme un instrument de vol, et il est dit en fait que l'indicateur d'attitude, il est considéré comme primordial pour garder le contrôle de l'avion dans des conditions de faible visibilité. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'analogie, mais c'est extrêmement important de toujours garder les yeux sur cet indicateur dans ta vie, indicateur de ton attitude. Si je veux avancer avec confiance et avec assurance, surtout quand c'est nuageux, surtout quand ma vision n'est pas si claire que ça, quand c'est ténébreux autour de moi, quand je suis entouré de doutes, de désillusions, de trahisons, de quoi que ce soit dans ta vie qui a tendance à flouter ma vision, je dois avoir un indicateur d'attitude. Je dois fixer mes yeux sur cet indicateur d'attitude. C'est lui qui va me faire traverser dans des conditions de faible visibilité, de garder le contrôle de l'avion, de garder ma destination, de garder le cap. Et c'est cela la foi. La foi, c'est quoi ? La foi, c'est garder, c'est manifester constamment l'attitude du ciel. Constamment. C'est continuer de déclarer, encore mieux, vivre conformément à ce que je sais être vrai, malgré la réalité de ce que je vis. Je suis dans la maladie, c'est une réalité. J'ai été trahi, c'est une réalité. Je galère financièrement, c'est une réalité. Mais il y a une réalité supérieure. Dieu est bon. C'est sa nature, ça ne change pas. Dieu est amour, ça ne change pas. Donc je peux choisir de demeurer dans la circonstance ou de demeurer dans son amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça fait toute la différence. Parce que je demeure dans qui il est. Et malgré la preuve du contraire, parce que je suis en train de l'expérimenter, je choisis de garder mes yeux sur mon indicateur d'attitude et je continue à le remercier. Et je vais en parler dans un instant parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. En fait, on va en parler tout de suite. Une des clés majeures, première lettre du mot alerte, qui protégera mon cœur de l'offense, de l'amertume, qui va protéger mon cœur de l'apathie, de cette tiédeur spirituelle qui va s'abattre sur le monde et qui est déjà là, c'est l'attitude de gratitude. L'attitude de reconnaissance. Alors ça vous paraît peut-être basique, mais je vous garantis, c'est un pilier, un fondement de la vie chrétienne et qui libère beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des versets qui résonnent dans les temps par lesquels nous vivons. D'accord ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. Ce que j'aimerais te dire, et ça on le sait, quand tu pries, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on cherche Dieu. Ok, très bonne réaction, il faut le faire. Mais quand tu pries, ne te contente pas de demander ou d'exposer tes besoins, remercie-le. Ça peut changer radicalement votre vie chrétienne. C'est bien de faire connaître intensément nos besoins à Dieu, mais remercie-le aussi. Si je veux vaincre le stress dans ma vie, si je veux vaincre l'inquiétude dans ma vie, si je veux vaincre la peur dans ma vie, l'inquiétude qui au passage est un péché. Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ce n'est pas une option, une suggestion. À plusieurs reprises, c'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? Parce que l'inquiétude est un affront à Dieu. C'est déclarer à Dieu qu'il ne pourvoira pas, qu'il ne peut pas pourvoir, qu'il est incapable de pourvoir. Donc c'est un affront directement à ton Père qui est ta source. Abba veut dire source. Donc si je veux vaincre l'inquiétude, si je veux vaincre le stress, la peur, ben remercie Dieu en toute chose. Sois reconnaissant. Alors bien sûr, et vous le savez, le verset ne dit pas « Sois reconnaissant pour toute chose ». On n'est pas reconnaissant pour la guerre en ce moment. On n'est pas reconnaissant pour la perte d'un être cher. On n'est pas reconnaissant pour le cancer. On n'est pas reconnaissant pour la maladie, pour ces choses qui déchirent notre âme ou notre corps parfois. Mais il dit « Soyez reconnaissant en toute chose ». Ce qui veut dire que dans n'importe quel moment de ma vie, même les plus sombres, je peux toujours trouver quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Toujours. Pourquoi ? Cette chose, excusez-moi, parce que d'accord, c'est pas dénigrant ce que je dis, c'est Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Et donc je choisis de demeurer dans son amour. Et c'est là que je step, que je rentre dans la foi. C'est à ce moment-là. Vous savez que la foi est un périmètre. Hein. La foi, je peux y rester, y être, ou je peux en sortir. Je peux faire le choix. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Le mot sans la foi, c'est en dehors de la foi. Donc je peux y être ou je peux me mettre en dehors. Je choisis. Et c'est à ce moment-là, quand je vis quelque chose qui défie la réalité de ce que je crois, c'est là où je vais savoir si je suis dans la foi ou pas. Donc, je peux toujours trouver quelque chose de bon pour lequel je peux être reconnaissant. 1 Thessaloniciens 5:18, Paul va le redire, remerciez Dieu en toute occasion, à chaque fois que vous le pouvez. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu écrits comme cela. C'est ici la volonté de votre Père qui est dans le ciel. C'est ce que Dieu attend de vous. Souvent on se dit, mais Dieu, quelle est ta volonté pour ma vie? En voilà un. Dieu attend de vous. Voilà ce qu'il attend de moi. C'est sa volonté pour ma vie, que je sois reconnaissant en toute occasion. Si on veut des révélations spécifiques de sa volonté, commençons à pratiquer sa révélation générale. Dans la parole de Dieu, sois reconnaissant. Alors, rapidement, parce que c'est la conclusion de mon message, c'est là où le Saint-Esprit veut aller. Pourquoi est-ce si important de garder une attitude de gratitude? Pourquoi est-ce si important de maintenir, vous commencez à le comprendre, parce qu'il faut veiller sur mon cœur, d'accord? De maintenir cette attitude au milieu de la tempête, au milieu de l'adversité, de l'affliction, au milieu de l'incompréhension, au milieu des désillusions de la vie, parfois même de la douleur. Premièrement, il y aurait plusieurs choses à dire, mais j'en ai sélectionné 3. Pourquoi c'est si important? Pourquoi il faut que je veille sur l'attitude de mon cœur? Et particulièrement, je ne dis pas simplement de veiller de manière négative, c'est-à-dire faire attention. Oui, faire attention, mais il faut surtout que j'en pratique une, qui est la reconnaissance. Premièrement, il y a un lien très fort entre le sacrifice de reconnaissance, le fait que je développe une attitude de reconnaissance dans ma vie, et la délivrance, le salut de Dieu. Jonas 2, verset 8. Là, Jonas a désobéi à Dieu, il est au fond de l'océan, dans le ventre du poisson. Tu ne peux pas tomber plus bas. Littéralement, Jonas, d'ailleurs quand on lit le texte, Jonas lui-même à ce moment-là croit qu'il est en enfer. Il croit que c'est fini pour lui. Et il dit ceci, « Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson. Et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. » Moi, ce qui me choque ici, et Laurence, encore une fois, en a parlé, je crois vraiment que c'est ce que Saint-Esprit aussi veut dire. Jonas, ici, rappelez le contexte, il pense littéralement qu'il est en enfer, mais il va faire quelque chose. Et la situation qu'il est en train de vivre, je vous le rappelle, au fond de l'océan, dans le ventre d'un poisson. D'accord ? Je ne connais pas ta situation, mais ce n'est pas celle-là. Je ne suis pas en train de dénigrer, attention, je ne méprise pas les situations par lesquelles on passe. Certaines sont très douloureuses et on peut se sentir comme ça aussi. D'accord ? Ce n'est pas une question forcément de la réalité, c'est qu'on peut ressentir ça. Donc, je peux, même si c'était ça, Jonas va appeler sa situation une vanité mensongère. Parce qu'il dit, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Donc, Jonas est en train de décrire sa situation et il dit, en fait, ce que je vis là, c'est un mensonge. Il est au fond d'un océan, dans le ventre d'un poisson. Il a l'impression d'être littéralement en enfer et il dit, attention, c'est mensonger. C'est mensonger parce que je connais mon Dieu. Ça veut dire que les circonstances, bien que réelles, sont des vanités mensongères. C'est un mensonge passager par rapport à la vérité de la parole et des promesses de Dieu dans ta vie. Et ça, il faut qu'on le capte, les amis. Il y a des saisons d'adversité, oui. Mais la seule manière de traverser la tempête, c'est de durer plus longtemps qu'elle. C'est forcément passager. Ce qui veut dire que chaque forteresse dans ma vie, chaque limitation, chaque contradiction à ce que Dieu m'a dit, à ce que Dieu m'a appelé à faire, ça doit être renversé, ça doit être refusé, réfuté au moment où je prends la décision de le remercier. Au moment où je prends la décision de le louer, de l'adorer. Il dit ceci, mais moi je t'offrirai un sacrifice. Pourquoi un sacrifice? Ça lui a tout coûté. Il n'avait aucune raison à ce moment-là de remercier Dieu. Pourtant il a dit, s'il y en a, Dieu. Et ça suffit, mais alors amplement, pour être plus important et plus réel que ce que je suis en train de vivre. Une autre façon de le dire, arrête de prier le problème. Arrête de parler du problème. Prie la solution. La solution, c'est Christ. Donc, focalise-toi sur Christ. Déclare qui il est. Contemple-le. Parce qu'il y a une vérité, il y a une réalité spirituelle, il y a un principe spirituel, il y a un mécanisme spirituel, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est une réalité du monde de l'esprit. Je deviens ce que je contemple. Je deviens ce que je contemple. Si mes yeux sont constamment en train de contempler la beauté de Jésus, vous avez vu toutes les références que David a par rapport à Dieu ? Contemple ta beauté. Il ne parle que de la beauté de Dieu. Parce qu'il prend du temps à mettre les yeux où il faut. Et tu deviens ce que tu contemples. Donc ne prie pas le problème, prie la solution, prie Christ. J'ai envie de vous le dire, et peut-être ça va sonner peut-être un peu dur pour certains, mais il faut qu'on le capte avec l'esprit. Avant de demander à Dieu de nous guérir, avant de demander à Dieu peut-être même de retirer ce cancer aussi dramatique, douloureux que cela puisse être, ou avant de demander que Dieu enlève telle ou telle chose de ma vie, peut-être que je devrais avoir d'abord la révélation de à quel point je suis déjà béni en Christ. Et j'aimerais vous dire ceci, et je m'inclus évidemment avec vous. Si on découvrait réellement les bénédictions avec lesquelles Dieu lui-même nous a bénis, assis dans les lieux célestes, que nous sommes les héritiers, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, nous les avons. Et j'en passe. Et mon but n'est pas, et peut-être qu'il faudra le faire un jour, d'exposer toutes les promesses. Ce n'est pas que des promesses, c'est des réalités en Jésus. Elles sont oui et amen. Je crois que si on avait la révélation de comment on est déjà béni, je crois en fait qu'on serait littéralement embarrassé. Je pense qu'on aurait honte en fait. Honte de nous plaindre ne serait-ce qu'une fois. Et je ne suis pas en train de comparer les situations, parce que même Jonas a pu offrir un sacrifice de reconnaissance. Et la beauté du mécanisme spirituel, c'est que cela a ouvert la porte du miraculeux, a ouvert la porte de la délivrance. Bien ceci, Dieu ne se focalise jamais sur ce que tu n'as pas. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne dans nos vies. Dieu ne se focalise jamais sur ce que tu n'as pas. Il se focalise sur ce que tu as. Ce qu'il t'a donné. Et ça, c'est une clé pour moi. La question, c'est, sais-tu ce que tu as ? Arrives-tu à apprécier ce que tu as déjà à sa juste valeur ? Réellement. Parce que, voici une clé pour moi, et je le crois. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, Dieu s'occupe de ce que tu n'as pas. C'est un changement de focus, les amis. Vous savez ? David, à un moment donné, a ramené l'Arche de l'Alliance dans la tente. Il a fait une tente. Il a ramené l'Arche de l'Alliance qui a été capturée par les Philistins. Il l'a ramenée au milieu du peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait ? L'Arche de l'Alliance est le symbole de la présence de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le tabernacle en tant qu'Église de Christ, mais aussi en tant que temple du Saint-Esprit individuellement. Donc, nous portons la présence de Dieu. David l'a ramené dans la tente. Le Saint-Esprit l'a ramené dans notre corps, notre cœur. Nous portons la présence de Dieu. Qu'est-ce que David a fait ? Il a dit, puisque la présence de Dieu est là, je veux 24 heures sur 24 de la louange, de l'adoration, des actions de grâce. Et il a appointé 288 musiciens pour qu'il y ait de la louange, pour qu'il y ait des proclamations, pour qu'il y ait des actions de grâce, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il n'y a pas une attitude de reconnaissance dans ma propre vie et que je me laisse accaparer par les circonstances et les difficultés, aussi difficiles soient-elles, c'est que peut-être je n'ai pas la révélation de ce que je porte. Parce que c'est automatique. Quand j'ai la révélation de qui vit en moi et de qui est Jésus en moi et que je suis le porteur de cette présence, il y aura automatiquement de la reconnaissance. Constamment. Donc, sais-tu ce que tu as ? Sais-tu réellement ce que tu as ? Est-ce que tu arrives à l'apprécier à sa juste valeur ? Donc, la reconnaissance, elle est liée à la délivrance. Jonas l'a expérimenté. Deuxièmement, il y a un lien très fort entre la gratitude et le bonheur. Entre la gratitude, si vous voulez, et le bien-être. On ne peut pas être ingrat et heureux à la fois. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais en général, les personnes heureuses sont des personnes reconnaissantes. Et les personnes malheureuses qui subissent leur vie sont des personnes ingrates. Or, la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Jean, l'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, dit « La volonté de Dieu, c'est que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. » Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Mais je dois collaborer avec Dieu. Les personnes ingrates sont des personnes souvent malheureuses. Et en fait, il y a des études en psychologie qui ont été faites. Et je vais vous lire un extrait, d'accord ? C'était très long. Juste un tout petit extrait de cette étude en psychologie. Il y en a plein, j'en ai pris juste une. Voici ce qu'il est dit. Une attitude de gratitude, d'accord ? C'est pas la Bible, hein ? C'est même pas les chrétiens. Ce sont des psychologues. Une attitude de gratitude renforce mon système immunitaire, me rend plus résistant au stress, à la frustration, affaiblit les émotions négatives et est un antidote puissant au sentiment de solitude existentielle que l'on peut parfois éprouver. S'il y a une génération qui éprouve ce que je suis en train de dire là, c'est bien celle-ci. Il y a des centaines et des milliers de suicides. Et ce qui est dramatique, c'est que même dans les tranches d'âge de plus en plus jeunes, parce qu'on se sent seul, on est déprimé, on est découragé, il n'y a plus d'espoir. Une étude en psychologie a prouvé, là, ce que je viens de le lire, et ils n'ont rien appris. Hein. La parole de Dieu, elle a déclaré ces choses bien avant. Mais alors, bien avant. Parce que quand on regarde Philippiens 4:6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais priez Dieu en toute chose avec une attitude de reconnaissance. » La conclusion, c'est quoi ? Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, le résultat d'un cœur reconnaissant, c'est un cœur en paix. C'est automatique. Un cœur reconnaissant va expérimenter la paix de Dieu. Proverbe 14:20, il y a un lien entre la gratitude et le bien-être, le bonheur, la santé. Un esprit paisible, donc un esprit qui a récolté en quelque sorte la reconnaissance. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Laissez-moi vous dire, souvent, notre guérison est enfermée dans notre reconnaissance. C'est la vérité de la parole. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le corps. Proverbe 17:22, un cœur heureux est un excellent remède. Et un esprit joyeux, notre version 10, reconnaissant, peut guérir. Un esprit joyeux peut guérir, mais un esprit abattu dessèche les os. Il y a un lien direct entre une attitude de reconnaissance dans mon cœur, qui prend racine dans mon cœur, et mon corps, et ce qui se passe sur mon corps. Troisièmement, donc pourquoi veiller sur une attitude de gratitude dans ces temps ? Parce que c'est lié à la délivrance. Deuxièmement, c'est lié à mon bien-être et à ma santé. Et troisièmement, celui-là est aussi important, l'ingratitude, le fait de ne pas être reconnaissant, va me conduire tôt ou tard à l'impiété. C'est pour ça que Dieu nous dit dans sa sagesse, veille. Veille sur ton cœur. Sans t'en apercevoir, tu vas emprunter la route de l'impiété. Si tu ne veilles pas sur le fait d'être reconnaissant. 2 Timothée 3:1. Écoutez ce que Paul dit, inspiré du Saint-Esprit. Tu dois le savoir. Le Saint-Esprit nous dit, tu dois le savoir. N'ignore pas cette chose. Et si tu ne le savais pas, après ce dimanche matin, tu le sauras. Tu dois le savoir. Mais en fait, ici, ça veut dire, tu dois le savoir et ça doit être gravé là. Ne l'oublie jamais. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Et il va lister une liste de caractéristiques qui va en fait caractériser les gens de cette saison-là. il va dire, les gens seront égoïstes. Et il y a toutes sortes de qualificatifs. Et à un moment donné, il arrive, dans le même souffle, il dit, et ils ne seront plus capables de dire merci, et ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Dans le même souffle. Il n'y a pas de ponctuation dans les textes originaux. D'accord ? Donc il dit, ils seront ingrats, d'autres versions disent, ils ne seront plus capables de dire merci, et ils ne respecteront plus les choses de Dieu. D'autres versions disent, ils seront ingrats et sans piété. Alors, écoutez bien ceci. L'ingratitude et l'impiété sont deux choses qui sont liées. Ce sont deux choses interconnectées. Pourquoi ? Parce qu'une attitude d'ingratitude va me conduire petit à petit à l'impiété. C'est quoi l'impiété ? L'impiété, c'est quand les choses de Dieu, c'est-à-dire que je suis conduit à me désintéresser, à m'éloigner des choses de Dieu petit à petit. C'est-à-dire ce qui avait avant, au début de ma vie chrétienne, beaucoup de valeur. Elle perd de la valeur au fur et à mesure à mes yeux. Sa parole. Je vous parlais de l'église locale. La prière. La communion fraternelle. Son appel pour ma vie. Il n'est plus devant mes yeux. Ces choses-là commencent à perdre de la valeur. C'est cela l'impiété. Pourquoi c'est lié ? Parce que lorsque je suis reconnaissant, ça va me forcer à faire quelque chose. Si je suis reconnaissant, c'est que je décide d'enlever les yeux de moi et de les porter sur quelque chose. Tu ne peux pas être reconnaissant et garder les yeux sur toi. Tu es forcément reconnaissant à Dieu ou à quelqu'un d'autre. Donc ça t'oblige à regarder en dehors de toi, à regarder sur quelqu'un d'autre pour exprimer ta reconnaissance. Au contraire, quelqu'un d'ingrat, c'est quelqu'un qui est fixé sur lui-même. Et le problème, c'est que quand je pose les yeux sur moi, le résultat du moi, c'est toujours l'impiété. C'est toujours la chair. Et c'est pour ça que la reconnaissance nous garde. Veille sur ton attitude, une attitude de reconnaissance. Fixe les yeux en dehors de toi. Je dois regarder à quelqu'un d'autre. Donc, la gratitude, la reconnaissance, ou l'absence de gratitude, est toujours un indicateur de là où j'en suis dans ma vie spirituelle. C'est un indicateur. Je vous parlais de l'indicateur d'attitude dans un avion. Pareil. Le manque de reconnaissance ou l'abondance de reconnaissance. Il y a plein de versets comme ça. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y avec reconnaissance. Donc la reconnaissance est un indicateur dans ma vie. Pour savoir où j'en suis spirituellement. Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, je ne sais pas en tout cas si ça vous parle, mais ce que le Saint-Esprit essaye, je pense, de vous donner et de nous donner tous ensemble. Parce que le Saint-Esprit est venu me chercher réellement cette semaine. J'en parlais à mon épouse hier soir. Il y a des choses qu'on prend dans notre vie chrétienne comme fatalité. Et on a plus tendance à subir une vie que de la vivre en tant que plus que vainqueur. Parfois, il y a un fossé. Et on est là et on proclame le dimanche matin, je suis plus que vainqueur. Et on est là, on se dit, mais en fait, il y a plus qu'un fossé, il y a plus qu'un décalage. Il y a un fossé. J'arrive à un lundi matin et je suis le pire des pires. C'est pas vrai ? Ça arrive qu'à moi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous a manqué. Je ne dis pas que c'est la seule clé, mais le Saint-Esprit veut vous donner en tout cas une clé. Où en es-tu par rapport à cette attitude de reconnaissance ?